Buenas tardes, señoras y señores. Comparecemos hoy de nuevo en la cuarta conferencia de las que se componen este ciclo que sobre temas europeos estamos organizando en el presente mes en la Fundación. Hoy, siendo la conferenciante la señora Bail, expresidenta del Parlamento Europeo hasta el mes pasado. Ella va a hablarnos sobre un tema que conoce especialmente bien, que es precisamente el Parlamento Europeo, haciendo un balance de su actuación hasta el momento y unas perspectivas para el futuro. La señora Bail va a ser presentada ante todos ustedes por el profesor don Manuel Díez de Velasco, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Madrid, magistrado del Tribunal Constitucional Español, académico de la Academia de Legislación y Jurisprudencia y miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional. El profesor Díez de Velasco es una de las grandes personalidades que tiene la Universidad Española en materia de Derecho Internacional. A mí, en nombre de la Fundación, no me cabe sino darle nuestras más rendidas gracias por haber aceptado nuestro ofrecimiento de presentar ante todos ustedes a la señora Bail y de decir a la señora Bail cuán felices somos por la posibilidad de oír su palabra en estos momentos acerca de un tema de tanta importancia política para la Comunidad Europea, para el proceso de integración europeo, como es el Parlamento que ella ha presidido, como digo, hasta hace apenas un mes. Con estas palabras mías de preámbulo, cedo inmediatamente el uso de la palabra al profesor Díez de Velasco y agradezco a todos ustedes su presencia en esta sala.
Señoras y señores, antes de comenzar a esta introducción a la señora Bail, quiero agradecer las palabras cariñosas que conmigo ha tenido el director gerente de la Fundación, señor Juste, que se las agradezco de todo corazón. Para mí es un motivo de especial satisfacción participar en este acto en el que una de las personas más cualificadas dentro de la Europa comunitaria, Madame Bail, nos va a hablar de una institución tan querida para ella y tan respetada en España, cual es el Parlamento Europeo. Este órgano, de especial importancia para la Europa futura, ha sido presidido hasta enero del presente año por nuestra conferenciante. Nadie mejor que ella. Por su experiencia y por su formación jurídica y política, ya que tiene los títulos de Derecho y de Ciencia Política, nos puede hacer un balance de la significación y de las perspectivas de futuro de este órgano, que para mí ha de tener, especialmente en el futuro, una importancia excepcional. Para quien os habla, es un honor, y así lo manifiesto expresamente, presentar este acto y a la ilustre conferenciante en una entidad, la Fundación Juan Marc, benemérita promotora de la cultura, del arte, del pensamiento y de su difusión en nuestra España. El momento de este ciclo de conferencias no puede ser, a mi modo de ver, más oportuno. Es tanto como difundir en amplios niveles el sentido y la significación de Europa y concretamente de las comunidades europeas, así como las ventajas y los inconvenientes de la adhesión de España a estas comunidades. Se trata de una decisión o de un conjunto de decisiones que llevan aparejadas una amplia transformación de la realidad española en los planos económico, monetario, industrial, agrícola e incluso de costumbres y hábitos, algunos ancestrales, que debe ser asumida por nuestro país con el mejor y más amplio conocimiento. Quien en este momento os habla es un convencido europeísta desde hace incluso muchos años, antes de firmarse el Tratado de París de 1952, que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Seguí atentamente todo lo que nuestro aislamiento exterior nos permitía, los movimientos federalistas y el trascendental Congreso de La Haya del año 1948. No soy un improvisado europeísta y, por tanto, puedo decir con cierto conocimiento de causa la importancia que tiene este acto y estos actos y los que bajo el lema Europa Hoy ha organizado la Fundación Marc, mostrando con ello ser bien sensible para unos temas cuya significación trasciende del ámbito estrictamente cultural. La Europa comunitaria, la hoy formada por 10 países de la Europa occidental y en trance de su tercera ampliación a Portugal y a España, tiene para los europeos occidentales en general y para los españoles en particular un significado especial y profundo. La Europa comunitaria no es, como pretenden algunos, una simple unión aduanera con características propias, sino todo un proyecto de futuro cuya meta final no debe ser otra que la unión política de los pueblos del occidente europeo. No debemos olvidar que ya en la declaración de Robert Schuman, de día 9 de mayo de 1950, que puso en marcha a la Europa comunitaria, se decía que su fin político no era otro, y cito textualmente, que poner los primeros fundamentos concretos de una federación europea indispensable para preservar la paz. Más recientemente, otro insigne europeísta, Walter Hallstein, primer presidente de la Comisión Europea, mediante el símil del cohete en tres fases aplicado a la Comunidad Europea, señalaba que dichas fases estaban representadas respectivamente por la unión aduanera, la unión económica y monetaria y la tercera y definitiva, la unión política. Para los europeos, la Europa comunitaria significa no solo la superación de viejas rivalidades y antagonismos entre los pueblos europeos, sino, y esto es lo importante, el triunfo de los ideales de libertad y democracia y la realización práctica de dichos ideales bajo la garantía del Estado de Derecho. No es extraño, pues, que los españoles, por circunstancias de nuestro pasado histórico bien conocidas, veamos en la Europa comunitaria no la Europa de los mercaderes, sino la formada por un conjunto de seres humanos libres, con todo el profundo significado que la libertad tiene en los planos intelectual y humano. Nadie mejor que la conferenciante, europea que ha sufrido persecución y ha padecido en época bien temprana de su vida un campo nazi de exterminio, sabe lo que las libertades políticas significan para quien ha estado privado de ellas. No la extrañe, pues, que los españoles veamos en la Europa comunitaria, antes que nada, sus ideales, el ideal de Europa, las virtudes, y disimulemos, silenciemos e incluso olvidemos los graves momentos por los que atraviesa Europa como consecuencia de la crisis económica, con su secuela de parados, el renacimiento de ciertos proteccionismos nacionales, contrarios incluso a los tratados comunitarios, la lentitud en avanzar por la senda de la unión económica y monetaria, las fisuras de una deseada política exterior común y esas largas esperas a la puerta de la comunidad de la que los españoles estamos siendo víctimas. Las comunidades, y concretamente la Comunidad Europea, han dado a Europa una era de prosperidad, de paz y de libertad desconocida en su larga historia. Una buena parte de su éxito descansa en su aparato institucional y en el equilibrio racionalizado en el mismo por los tratados creadores de las tres comunidades y el Tratado de Fusión. Hablar de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial como si ellos correspondieran en exclusiva a cada uno de los cuatro órganos principales sería un error lamentable. La distribución de competencias entre los órganos de las comunidades europeas obedece a criterios políticos y funcionales y las competencias se entrecruzan entre ellos sin que pueda hacerse un parangón con la división de poderes de un Estado democrático parlamentario. Por ello, o con ello, quiero poner de relieve que, salvando el Tribunal de Justicia como órgano estrictamente judicial, los otros órganos principales tienen distribuidas las competencias legislativas y ejecutivas entre ellos en base a los elementos de supranacionalidad o intergubernamentalidad que son propios de las organizaciones europeas comunitarias. El problema nos llevaría demasiado lejos y no es misión mía en este momento y en este lugar entrar en ello. No obstante, nos vamos a detener brevemente en el Parlamento Europeo para hacer respecto a él algunas consideraciones. El Parlamento Europeo tiene otorgados poderes de control sobre la Comisión, mociones de censura, y sobre esta y sobre el Consejo, interpelaciones orales y escritas, además un poder consultivo previsto en los tratados, de una importancia tan excepcional que puede incluso llegar a que el Tribunal anule un acto del Consejo adoptado sin respetar las reglas de la consulta al Parlamento, y finalmente un poder financiero de control sobre el presupuesto. La importancia del Parlamento es, a mi juicio, creciente, no tanto por la ampliación o no de sus competencias en el futuro, sino por el aumento de su significación democrática como consecuencia de la elección de sus miembros entre los días 7 y 10 de junio de 1979 por medio de sufragio universal directo, es decir, al haber sido elegidos sus diputados directamente por los ciudadanos de los países comunitarios y no por los parlamentos nacionales, como había sido hecho hasta dicha fecha. El Parlamento se ha transformado así en una auténtica Cámara de los Pueblos y ha supuesto, de hecho, un aumento de la credibilidad democrática del órgano y de la comunidad y una intensificación en el proceso de democratización de las comunidades. La crítica de la insuficiencia de legitimación democrática de las instituciones comunitarias que llevan un peso decisorio, Consejo y Comisión, no pueden hoy extenderse al Parlamento. Junto al proceso de democratización, se ha intensificado también el proceso de desnacionalización de los parlamentarios, fenómeno que favorece su distribución por grupos o afinidades ideológicas y no por nacionalidades, así como sus tomas de posición. El Parlamento ha experimentado un cambio cualitativo y cuantitativo evidente. Respecto al primero, al elemento cualitativo, no es ajena Madame Weil, que fue elegida para presidirlo en esta época decisiva, provocada por su nuevo modo de elección. El Parlamento siempre ha tenido especial sensibilidad para los temas españoles. Durante la época de la dictadura fue una voz vigilante de los acontecimientos españoles y puso siempre claramente de manifiesto los condicionamientos políticos que vedaban la entrada de España en las comunidades. Gracias al Parlamento se pusieron de manifiesto casi anualmente las ambigüedades de los políticos y de los medios de comunicación que pretendían soslayar el origen político de los problemas de España respecto a las comunidades. Después del cambio hacia la democracia, el Parlamento Europeo ha hecho de España objeto de su atención en momentos de especiales dificultades y las referencias a nuestro país en estos últimos años han sido incontables. La rotundidad ha presidido sus resoluciones sobre España. A tres cuestiones voy a referirme brevemente. En primer término, se ha instado a los órganos competentes comunitarios para acelerar las negociaciones de adhesión. En segundo término, y respecto al terrorismo y al secuestro del diplomático español señor Rupérez, el día 16 de noviembre de 1979 se aprobaba una resolución en la que se condenaba el secuestro y se calificaba a ETA como organización terrorista que se colocaba así contra la voluntad de la mayoría del pueblo vasco y se expresaba la solidaridad con el Parlamento español. Finalmente, como tercero y significativo botón de muestra, la resolución de 13 de marzo de 1981 condenaba de manera rotunda el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, se felicitaba por la intervención de Su Majestad el Rey, por el papel jugado por las autoridades, instituciones y el pueblo español, y recordaba que la democracia parlamentaria pluralista y el respeto a los derechos humanos constituyen la condición de la adhesión a la comunidad. Las resoluciones del Parlamento Europeo citadas son significativas del buen quehacer de este órgano comunitario como vigilante de la democracia y de la libertad en Europa. Demuestra además una especial sensibilidad para los temas españoles, sensibilidad de la que no es ajena la antigua presidenta del Parlamento y en buena parte ha sido promotora y motor de dichas resoluciones. De su conocimiento de los sufrimientos humanos, en el caso Rupérez, nos da buena idea su historial de miembro de la justicia francesa, su quehacer en materia de administración penitenciaria y su propia experiencia personal. Respecto a la resolución relativa a los sucesos del 23 de febrero, pocas personas conocen mejor lo que significa el totalitarismo y el triunfo de una ideología de este tipo como Madame Weil. Como español, señora, le agradezco su resuelta actitud respecto a nuestros problemas y a la defensa de nuestras libertades. Termino, pues me he extendido más de lo previsto, reiterando mi sincera admiración por el buen hacer y la clara inteligencia de Madame Veil, avalada por su interesante biografía, y agradeciendo a la Fundación Marc el habernos deparado la posibilidad de escuchar directamente sus reflexiones sobre su experiencia como presidenta del Parlamento Europeo. He dicho.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Professeur Velasco pour les propos qu'il a prononcés à mon endroit et qui m'ont infiniment touchée. Organiser un cycle de conférences sur l'Europe d'aujourd'hui à Madrid, en ce début d'année 1982, c'est faire preuve tout à la fois de pragmatisme et d'optimisme. Aussi, que la Fondation Juan March, ses responsables, soient remerciés pour cette initiative au nom de ceux qui croient à l'avenir de l'Europe. C'est faire preuve de pragmatisme et d'à-propos, car aujourd'hui, plus qu'à aucun autre moment depuis la Deuxième Guerre mondiale, la tension internationale, encore soulignée par le récent échec de la conférence de Madrid et les déséquilibres économiques qui se traduisent notamment par plus de 10 millions de chômeurs dans les pays de la communauté, nous impose de renforcer l'unité européenne. Si l'on veut que ce que Paul Valéry a pu appeler cette petite presqu'île de l'Asie, qu'est l'Europe occidentale, continue à jouer dans le monde le rôle qui lui revient du fait de son histoire, de ses ressources humaines, de ses capacités de production, et surtout du capital de confiance dont elle bénéficie en tant que garant des valeurs démocratiques dans le monde, il n'est que temps de réagir si l'on veut éviter l'enlisement progressif qui est en train de se produire. Cette nécessité d'une relance européenne, elle est, semble-t-il, ressentie par la plupart des responsables politiques européens, du moins parmi ceux qui ont la charge d'assumer le pouvoir. Tous s'accordent à reconnaître que divisés, les pays de la communauté ne peuvent ni peser d'un poids suffisant pour influencer les grands événements internationaux, ni résoudre, dans le seul cadre national, les difficultés économiques et sociales auxquelles chacun de nos pays est confronté. S'ajoute aussi à ces sentiments de relative impuissance le désir plus ou moins exprimé de certains des pays, de voir leur propre politique confortée et renforcée par l'appui des autres partenaires de la communauté, constituant ainsi un amplificateur non négligeable et parfois même nécessaire d'initiatives à l'origine purement nationale. Ainsi, contraint par la réalité des faits, et parfois subtil meneur de jeu dans une diplomatie complexe, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, leaders des partis, ne cessent de proclamer, urbi et orbi, que l'unité européenne doit se renforcer, qu'il y a lieu de développer de nouvelles politiques communautaires. Après l'espace judiciaire européen, l'espace social et un espace culturel apparaissent comme de nouvelles dimensions à conquérir, permettant de trouver des solutions miracles et des possibilités multiplies. Dans le foisonnement d'appels à l'union de l'Europe et ce concert de louanges, on trouve même les voix des anciens détracteurs traditionnels qui, après avoir pendant tant d'années suspecté l'Europe de vouloir détruire les nations, s'inquiètent de notre faiblesse devant la montée de l'hégémonie soviétique et osent parler de ce sujet tabou qui était encore il y a peu la défense européenne. À ces déclarations multiples et engagées s'ajoutent, il faut le souligner, des propositions plus précises présentées par les ministres des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne et d'Italie qui, faute de pouvoir envisager en l'état une modification des traités tendant à les compléter par une charte européenne qui permettrait de renforcer l'efficacité des institutions européennes. Un tel contexte pourrait paraître encourageant quant aux perspectives de la communauté. Et pourtant, en commençant mon propos, je ne craignais pas de dire que parler de l'Europe d'aujourd'hui, c'était faire preuve d'optimisme. En effet, il faut le reconnaître, et ce n'est pas nuire à l'Europe, mais au contraire, vouloir la sortir de l'ornière où elle s'enfonce, il faut le dire et le redire, si la communauté ne trouve pas un nouveau souffle, et si elle ne sait pas résoudre rapidement les dossiers, certes difficiles, qui lui sont actuellement soumis, elle risque fort de se trouver dans une impasse. En effet, autant les discours paraissent engagés, autant les actes les contredisent. À l'époque où la participation budgétaire des États était fonction des possibilités de contribution, les gros payeurs, acceptant par solidarité, au demeurant souvent très bénéfique pour les intéressés eux-mêmes, de le faire sans tenir une stricte comptabilité entre les sommes versées au compte de la communauté européenne économique et les bénéfices retirés, a succédé le temps du juste retour. À l'exemple, il faut le dire, du Royaume-Uni, chacun entend désormais ne pas payer davantage pour le budget de la communauté que ce qu'il retire net en valeur du simple fonctionnement des règles communautaires. Sont bannis de ces calculs simplistes et contraires à l'esprit même de la communauté les profits et conséquences plus ou moins mesurables résultant de l'appartenance à la communauté. Plus grave encore peut-être pour l'avenir de la communauté, les infractions répétées et volontaires aux règles communautaires dès lors que leur respect porterait atteinte à des intérêts nationaux, même tout à fait sectoriels. Ainsi, les pratiques de mesures nationales, plus ou moins bien dissimulées, se multiplient, compromettant les règles d'unité du marché à l'intérieur de la communauté, entraînant des contentieux entre États membres, source d'irritation et d'incompréhension pour l'opinion publique à l'encontre de l'Europe. Dans un tel climat, qui va s'alourdissant en raison des difficultés économiques et de l'accroissement du chômage, les dossiers européens, même d'intérêt limité, deviennent de plus en plus difficiles à traiter, traînent en longueur, et leur examen est ajourné par suite du veto opposé par tel ou tel État membre qui préfère conserver ses prérogatives nationales. Ainsi, de contentieux en contentieux, de crise en crise, les citoyens européens commencent à perdre la confiance qu'ils avaient mise dans l'Europe, à penser que la communauté n'est pas en mesure d'apporter des solutions efficaces aux problèmes de l'heure, qu'elle est davantage source de discussions et de conflits que d'union, et que dans ces conditions, il est peut-être préférable d'envisager les problèmes dans un cadre strictement national. Ici encore, l'opinion publique se lasse et rend l'Europe responsable de certaines situations défavorables à telle ou telle catégorie professionnelle, alors que c'est faute d'une solution communautaire que les difficultés en cause existent. Cette désaffection, cette inquiétude, je sais aussi que c'est celle qui est ressentie ici en Espagne, aussi bien chez les responsables politiques que dans l'opinion publique, devant les atermoiements des négociations en vue de l'entrée de votre pays dans la communauté économique européenne. Loin de moi, l'idée de sous-estimer les problèmes très concrets, non encore résolus, que pose aussi bien pour vous que pour la communauté, et particulièrement pour certains États membres, la perspective de l'élargissement. Mais l'entrée de l'Espagne et du Portugal, venant après celle de la Grèce, est avant tout un acte politique qui doit permettre d'apporter à vos jeunes démocraties la caution et le soutien de la force qui constitue l'ensemble des nations démocratiques de la communauté. Et c'est là, me semble-t-il, l'essentiel, particulièrement en cette époque où les démocraties sont de plus en plus menacées en tant que telles. J'ai cru devoir souligner précédemment L'optimisme dont les responsables de la Fondation One March avaient fait preuve en organisant ce cycle de conférences sur l'Europe d'aujourd'hui. En effet, s'ils veulent y intéresser leur public, ce ne peut être pour décourager l'attente et les espoirs que les Espagnols mettent dans l'entrée de leur pays dans la communauté. Aussi, je tiens à dire à ce public ici rassemblé par la Fondation Juan March que le Parlement européen, en ce qu'il concerne, s'est à maintes reprises, et encore tout récemment lors de sa session plénière du mois de décembre, prononcé à une très forte majorité pour que l'élargissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal se réalise à la date initialement prévue, c'est-à-dire au début de l'année 1984. En attendant, en adoptant cette résolution, le Parlement européen chargeait son président de l'époque de demander aux différents gouvernements, au Conseil et à la Commission, d'accélérer les négociations de façon qu'elles soient terminées pour que ces délais puissent être respectés. Ce faisant, sur cette question si fondamentale pour l'avenir de notre communauté et, je dirais, pour l'avenir de l'Europe tout entière, le Parlement européen marquait une fois de plus dans ce domaine, comme dans d'autres, sa volonté de voir l'Europe marcher résolument dans la seule voie qui nous laisse l'espoir de rester libre et indépendant, sa volonté de voir l'Europe assumer le destin qu'elle s'est fixé il y a 25 ans, celui de son unité. Cette mission de rappeler aux autres institutions communautaires et aux gouvernements respectifs des 10 États membres la nécessité d'aller de l'avant, de renforcer notre unité, qu'il s'agisse de dossiers considérés comme mineurs ou d'engagements politiques et diplomatiques fondamentaux sur le plan international, c'est celle que les citoyens de l'Europe ont en 1979 chargé le Parlement européen d'assumer. Car c'était bien là le sens de l'élection au suffrage universel direct, donner à la construction européenne une impulsion nouvelle en dotant le Parlement de la légitimité et de la force que confère la représentation directe. Appelé à parler du Parlement européen 2 ans et demi après cette élection, il ne me paraît pas inutile de rappeler une définition du parlementarisme qui figure dans le dernier remarquable ouvrage de Raymond Aron et selon laquelle personne ne s'enthousiasme pour la prosaïque démocratie parlementaire qui n'est excitante que lorsqu'elle a disparu. Cette définition me paraît très appropriée en l'espèce, car d'entrée de jeu, je voudrais poser la question qui me semble fondamentale. Que serait-elle? Que deviendrait cette communauté européenne, née en tant que communauté économique, si le Parlement européen n'existait pas? Je sais bien que d'aucuns considèrent que cette Assemblée n'ajoute pas grand-chose aux institutions communautaires, que certains même en contestent le bien fondé, estimant que son caractère supranational la conduit à empiéter sur les compétences des parlements nationaux, à entraver l'action des gouvernements, et à porter ainsi atteinte aux souverainetés nationales, seules légitimes. Je crois pourtant que nous avons le devoir, notamment lorsque, dans de très larges secteurs de l'opinion publique, s'élèvent des critiques à l'égard de la démocratie parlementaire, de son efficacité et, disons le mot, de son utilité, de rappeler, comme déjà l'avait fait Winston Churchill dans sa fameuse définition du parlementarisme, que celui-ci est certainement le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Au moment de l'élection au suffrage universel direct des membres du Parlement européen, le rôle que ce Parlement serait appelé à jouer avait suscité, selon les pays et selon les partis, méfiance ou espoir, sentiment qui déjà permettait d'entrevoir les difficultés qu'il aurait à surmonter en raison de cette ambiguïté. Presque 2 ans et demi après les élections, l'on peut affirmer que si les espoirs ont été partiellement déçus, les craintes ont largement disparu. Le Parlement européen n'est pas devenu une assemblée révolutionnaire communautaire que certains appelaient avec force. Cependant, il s'est affirmé comme une institution politique cohérente, capable de s'exprimer sans démagogie sur les grands sujets d'actualité et s'est refusé à rester confiné dans le rôle purement consultatif et marginal que d'autres n'ont jamais cessé de vouloir lui attribuer. Puis-je encore ajouter, et même souligner, que pour d'aucuns, la méfiance manifestée à l'égard du Parlement européen procède du même état d'esprit que celle qu'ils éprouvent envers les institutions parlementaires nationales, considérées comme susceptibles d'entraver l'action gouvernementale et de porter ainsi atteinte à l'autorité et surtout à l'efficacité de l'État. Je tiens à insister sur cette question qui mérite une profonde réflexion, même si naturellement les détracteurs du Parlement européen ne sont pas prêts à reconnaître que leur méfiance procède très largement d'un antidéparlementarisme, car en définitive, une conception restrictive des compétences et du rôle des parlements existe dans toutes les démocraties parlementaires. Et il est clair que ce sentiment devient particulièrement important à l'égard du Parlement européen, d'une part parce qu'il s'agit d'une organisation nouvelle, dont les traditions sont récentes, pas encore affirmées dans la conscience des citoyens. D'autre part, parce qu'il serait vain d'ignorer que des forces importantes prêchent pour une interprétation restrictive des traités et donc pour une compétence communautaire limitée, soumise à l'accord des gouvernements et concernant surtout les secteurs économiques et commerciaux. S'ajoute à cela le fait que la complexité des procédures communautaires et la difficulté de parvenir à un accord entre 10 gouvernements incitent ces derniers à réduire au maximum le rôle du Parlement européen, considéré encore davantage qu'un Parlement national comme un gêneur, facteur de perte de temps. Au réflexe classique des administrations nationales s'ajoutent ceux de la Commission aux prises avec des circuits si lourds et si complexes qu'elle cherche à contourner les facteurs supplémentaires de résistance ou tout au moins de prolongation des délais. Pour ce qui concerne la communauté, l'on oublie trop souvent qu'elle n'est pas une simple organisation de coopération internationale et qu'elle n'est pas non plus, ou pas encore, une confédération ou une fédération. Par conséquent, le Parlement européen ne peut ni ne doit être considéré comme une simple assemblée internationale, par exemple comme l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies, ou du Conseil de l'Europe, ou de l'Union de l'Europe occidentale, ni comme la copie, au niveau communautaire, d'un Parlement national. Dans la structure institutionnelle de la communauté, structure sui generis appelée à gérer en commun des intérêts et des volontés qui continuent toutefois à relever de la compétence de chacun des États membres, le Parlement européen a un double rôle à remplir. À l'intérieur de la communauté, dans ses relations avec les autres institutions, Conseil de ministres et Commission, il doit renforcer ses pouvoirs et prétendre participer effectivement à la définition de tout acte ou volonté communautaire. En même temps, et parallèlement, en dehors du cadre institutionnel de la communauté, il doit stimuler et appuyer toute initiative capable de faire progresser l'intégration européenne, aussi bien dans les secteurs explicitement prévus dans les traités que dans ceux qui y sont liés et qui s'intègrent dans la même conception d'Union européenne. À cet égard, l'on sous-estime souvent la spécificité du Parlement européen qui impose d'éviter de se référer à tout schéma institutionnel existant, référence qui ne pourrait que l'amoindrir. Les institutions communautaires, dans leur ensemble, présentent des caractéristiques originales marquées par un souci d'empirisme et d'efficacité. Le Parlement européen lui-même s'inscrit dans une dynamique communautaire où toutes les potentialités existent. Déjà depuis 2 ans et demi, le Parlement européen a démontré sa capacité à innover et à développer une influence dans des domaines que les parlements nationaux ignorent souvent, notamment en matière de politique internationale. L'avenir seul permettra de savoir exactement la place qu'il sera amené à tenir dans l'équilibre institutionnel et dans la vie communautaire, et un certain recul sera d'ailleurs nécessaire pour en prendre conscience de façon précise. Je tiens à insister sur ce point car trop souvent l'on doit regretter des malentendus et de fausses interprétations quant aux délibérations du Parlement européen, au rôle qu'il peut jouer et à la façon dont il peut exercer son influence. Lorsque le Parlement européen s'adresse aux États membres, aux parlements nationaux et à plus forte raison à des pays tiers, je pense notamment aux résolutions concernant les violations des droits de l'homme, ces délibérations et ces votes ne peuvent avoir que force de recommandation sans aucune conséquence d'ordre juridique. Mais s'il est vrai que dans ces cas, le Parlement européen ne dispose juridiquement d'aucun pouvoir, il n'en demeure pas moins que l'efficacité de ses votes est liée à son prestige politique et à son autorité morale. Il est évident que l'élection au suffrage universel direct a donné au Parlement européen un surcroît de légitimité politique et juridique et donc un accroissement important de son autorité. 2 ans et demi après son élection au suffrage universel, je n'oserais pas dire que toutes les difficultés sont surmontées. Mais je crois que l'on peut affirmer que le bilan est largement positif et je donnerai les raisons principales de cette appréciation. Je sais bien que l'on ne doit pas mesurer l'efficacité d'un Parlement uniquement sur la base des statistiques concernant son activité. Il n'en reste pas moins que le Parlement européen, au cours de 153 journées session plénière, a adopté 521 avis sur les projets de règlement et de directives de la Commission. Et il est indéniable que cette activité a confirmé l'importance du Parlement dans la communauté, a permis la transparence des actes communautaires et l'instauration d'un véritable dialogue entre toutes les institutions appelées à gérer et faire progresser la communauté. En même temps, l'image qu'acquiert peu à peu le Parlement vis-à-vis du reste du monde donne, par son expression démocratique, une crédibilité politique à l'Europe communautaire. La deuxième considération sur laquelle je tiens à attirer votre attention est le rôle et l'activité des groupes politiques. Le fait d'avoir constitué des groupes politiques communautaires auxquels participent des députés de plusieurs pays est absolument fondamental car il permet de donner à nos débats une dimension qui dépasse largement les aspects et même les intérêts nationaux. Les groupes politiques du Parlement européen représentent déjà, et malgré les contradictions auxquelles ils sont souvent confrontés, la préfiguration des partis politiques européens dont la constitution permettrait à la communauté tout entière de progresser réellement sur la voie de l'Union européenne. Certes, il serait vain de nier que des attitudes nationales existent toujours. Mais à cet égard, on ne peut ignorer le fait que lorsque des représentants de 10 pays se trouvent réunis, même s'ils ne siègent pas par délégation nationale mais par groupe politique, les uns et les autres restent sensibles et à juste titre aux intérêts nationaux dont ils assument pour une part la représentation au niveau européen puisqu'ils ont été élus par les citoyens de leur pays. Il faut d'ailleurs constater que même au sein des parlements nationaux, des divergences peuvent se manifester sur certaines questions eu égard aux intérêts particuliers des circonscriptions que les parlementaires représentent. On doit aussi ajouter que par les intérêts qu'ils représentent, par les traditions parlementaires, par leur comportement individuel, les parlementaires des différents pays sont généralement tout à fait représentatifs des spécificités nationales. C'est une réalité qu'on ne peut méconnaître ni même critiquer. Nous restons les uns et les autres marqués par notre culture et notre sensibilité nationale. C'est aussi la richesse de l'Europe. En revanche, il est important de souligner que les débats et les discussions très ouverts favorisent une plus large compréhension des problèmes respectifs de nos pays et de nos régions, ce qui permet d'élaborer des solutions prenant en compte les intérêts et les positions de tous les citoyens. C'est ainsi que très souvent, le Parlement européen a la possibilité d'ouvrir la voie à des décisions intégrant de façon équilibrée la diversité des situations des pays de la communauté et en définitive d'exprimer une volonté commune. La troisième considération qui permet de porter un jugement relativement positif sur l'activité du Parlement européen au cours de ces 30 mois est celui du dialogue permanent qui s'est instauré entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. C'est à travers ce dialogue que le Parlement intervient dans la procédure législative et dans la procédure budgétaire, et en général, dans le processus de formation des actes communautaires. Pour ce qui concerne la procédure budgétaire, le Parlement européen exerce un pouvoir de codécision avec le Conseil, et en outre, c'est à son président qu'il appartient, chaque année, de déclarer adopter le budget de la communauté. Ses pouvoirs en matière budgétaire sont dans la logique du système, puisque les ressources financières de la communauté sont propres à la communauté et sans possibilité de contrôle par le Parlement national. Elles proviennent en effet de l'application du tarif extérieur commun et du prélèvement jusqu'à 1% de la taxe sur la valeur ajoutée des États membres. Dès lors, il est indispensable que ce soit le Parlement européen qui en décide de la destination, en accord avec le Conseil, qui est appelé à représenter les intérêts des États membres dans l'élaboration et l'exécution des politiques communautaires. Le Parlement européen a voulu qu'à côté de la politique agricole commune, soit mise en place et développée d'autres politiques communautaires, et notamment une politique sociale, de l'emploi et de la recherche régionale et une politique des transports. C'est ce qui l'a amené à plusieurs reprises à modifier profondément le projet de budget qui lui était soumis et même, en 1980, à rejeter le budget. Mais il est vrai aussi que, outre le développement de ces politiques, le Parlement européen a voulu que soient renforcées les initiatives de la communauté en faveur de l'aide au développement, qui souligne notre volonté de solidarité avec les peuples qui souffrent et meurent de faim dans le monde, et ce faisant, le Parlement s'est efforcé de traduire de façon concrète les intentions et les désirs qui s'expriment dans la plupart des discours ministériels, au plan national comme au plan communautaire, mais qui souvent prennent prétexte de la limitation des ressources communautaires pour différer les décisions politiques traduites en termes budgétaires. Mais si la procédure budgétaire reste indéniablement le moment le plus important du dialogue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, la procédure législative, elle aussi, devrait bientôt permettre une intervention du Parlement qui ne soit pas un simple avis. En matière législative, notre Assemblée est née sans pouvoir d'initiative ni pouvoir de décision, et selon une interprétation restrictive des traités, elle devrait être simplement consultée. Dans la pratique, la participation du Parlement au processus décisionnel de la communauté est devenue beaucoup plus importante. Il est consulté régulièrement sur toutes les propositions de la Commission, et la Cour de justice elle-même a reconnu récemment à deux reprises le droit de consultation du Parlement européen comme une part fondamentale du processus législatif de la communauté. À l'occasion de chaque session, la Commission est appelée à rendre compte au Parlement de la suite donnée à ses délibérations. Et le Conseil s'est engagé à communiquer les raisons pour lesquelles il s'est éventuellement écarté de l'avis du Parlement. Si l'on ajoute à ces procédures le droit d'interpellation, l'heure des questions au Conseil, à la Commission et au ministre des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique, on peut affirmer qu'aucun acte communautaire n'échappe au contrôle du Parlement et, bien au contraire, que toute décision est devenue, grâce au Parlement européen, transparente et à la portée de l'opinion publique. Mais ce qui est beaucoup plus important pour l'avenir du processus législatif, c'est la possibilité de rendre efficace, entre Parlement, Conseil et Commission, une procédure de concertation analogue à celle qui existe pour l'adoption du budget. Cette procédure de concertation a été solennellement décidée par les institutions en 1975. Mais il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, elle n'a été que très partiellement appliquée et n'a pas jusqu'ici donné les résultats que l'on pouvait en attendre. Dans ce domaine, l'effort de réflexion que le Parlement européen est en train d'accomplir, et plus généralement que l'on est en train d'accomplir au sein de la communauté européenne, est très important. À Strasbourg, le bureau élargi du Parlement a rencontré les 10 ministres des Affaires étrangères au mois de novembre dernier pour examiner avec eux les possibilités d'améliorer, dans le cadre de la procédure législative, cette concertation qui, à l'heure actuelle, est limitée aux actes de portée générale et ayant des implications financières notables. Il est urgent que soit comblée la lacune démocratique qui s'est créée par le fait qu'il appartient maintenant à la communauté de gérer les intérêts économiques, commerciaux, mais également politiques, qui relevaient, il y a 30 ans, de la compétence des États nationaux. Le Parlement européen doit être en mesure d'exercer, sur le plan européen, le rôle et les pouvoirs que les parlements nationaux auraient exercés sur le plan national. La construction communautaire ne peut se réaliser avec un affaiblissement de l'intervention du pouvoir parlementaire dans le processus et les procédures qui conduisent à des décisions directement applicables à tous les citoyens de la communauté. Et c'est la raison pour laquelle le Parlement européen, en attendant une éventuelle modification des traités, estime indispensable qu'au moins la procédure de concertation soit améliorée et lui donne la possibilité de la mettre en œuvre dans tous les cas. Pourtant, contrairement à ce que l'on pense parfois, et même communément, il ne me paraît pas évident que la reconnaissance d'un pouvoir délibératif en matière législative, à la place de son actuel pouvoir consultatif, donnerait ipso facto beaucoup plus de poids au Parlement européen et suffirait à renforcer son image dans l'opinion publique. Même si au plan théorique et même au plan démocratique, ce pouvoir législatif me paraît indispensable. En effet, aussi longtemps que la double compétence de l'autorité communautaire et des autorités nationales subsisteront, on voit mal comment, sans prendre le risque d'un conflit grave avec tel ou tel Parlement national, le Parlement européen pourrait, de sa propre initiative, imposer une directive concernant des problèmes majeurs sans qu'il y ait eu des négociations préalables avec les différents États membres. Dans ces conditions, le Parlement européen ne pourrait guère modifier le processus législatif actuel de la communauté, étant seulement assuré de faire prévaloir son point de vue, qu'il s'agisse de propositions transmises par la Commission ou même de propositions d'initiatives parlementaires. Il n'est pas douteux qu'un tel pouvoir législatif constituerait un pas important et un considérable progrès pour le Parlement européen et d'ailleurs pour la construction européenne tout entière. Toutefois, je ne pense pas que cela permettrait d'aborder de façon globale les questions majeures qui se posent à la communauté et d'éviter cette approche, trop souvent morcelée et décousue, qui donne aux directives et règlements communautaires un aspect aussi technique et peu accessible à l'opinion publique. Il faut en effet souligner que si l'action du Parlement européen n'est guère ressentie par les citoyens européens, l'activité de la Commission et du Conseil ne le sont guère davantage, et que seules les catégories socio-professionnelles directement concernées suivent avec attention les travaux de Bruxelles. Pour donner un exemple précis illustrant ce propos, je dirais que je vois mal comment, en l'état actuel des rapports entre les souverainetés nationales et les institutions communautaires, le Parlement européen pourrait imposer proprio motu à tous les pays de la communauté un abaissement de la durée du travail ou telle mesure fiscale. En réalité, si l'on considère de façon lucide et pragmatique les raisons pour lesquelles le Parlement européen éprouve des difficultés à imposer son enjeu et son influence, c'est que les institutions communautaires, dans leur ensemble, se trouvent dans cette situation complexe et ambiguë qui découle de l'absence d'un exécutif communautaire ayant une compétence exclusive par rapport aux exécutifs nationaux dans un certain nombre de domaines. Il est vrai que théoriquement, la Commission exécutive de Bruxelles est l'exécutif de la communauté. Mais d'une part, les gouvernements ont très largement vidé ce principe de toute réalité. D'autre part, même dans le cas où le Parlement, qui en a la possibilité, censurerait la Commission, c'est-à-dire obligerait la Commission à démissionner, il n'est pas évident qu'il en recueillerait un bénéfice n'ayant aucune garantie quant à la désignation de la nouvelle et future Commission. Une éventuelle censure de la Commission risque donc, si le conflit n'est pas sérieux et n'est pas compris par l'opinion publique, d'aboutir à un conflit entre Conseil et Parlement, conflit qui risquerait d'aggraver encore la méfiance actuelle de beaucoup de citoyens qui voient surtout dans l'Europe une source de contentieux et de discussions. C'est pour cette même raison et dans le même esprit que le Parlement européen veut être associé à la conclusion des accords internationaux qui lient la communauté à des pays tiers, convaincu que la communauté ne peut s'engager à l'extérieur et définir sa volonté sans une participation réelle de l'institution appelée à représenter démocratiquement les peuples européens. Mesdames et messieurs, réfléchir à l'importance du Parlement européen signifie examiner les aspects politiques de son action. Je rappelais au début de mon intervention que la communauté européenne est née en tant que communauté économique après l'échec de la communauté européenne de défense et des plans visant à la création d'une union politique. Le passage de l'union économique à l'union politique, contrairement à ce que les auteurs du traité de Rome espéraient, n'est pas intervenu de façon automatique et on a dû à maintes reprises constater les impasses de la construction européenne et assister à de véritables crises qui ont empêché tout progrès vers l'union politique. Le Parlement européen a entièrement assumé à ce sujet ses responsabilités. Force politique, il n'a cessé de stimuler et d'appuyer toutes les initiatives capables de donner à l'Europe une arme et une conscience politique, ainsi que la possibilité de s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale. On peut au demeurant s'étonner que le Conseil des ministres, aussi bien que les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen, n'aient pas davantage pris conscience du soutien que pourrait leur apporter le Parlement européen pour certaines de leurs prises de position par l'effet d'amplification donné par le vote de certaines résolutions. Parmi les institutions de la communauté, seul le Parlement européen n'est pas directement ou indirectement lié au gouvernement des États membres. Par conséquent, il lui appartient d'assumer l'entière responsabilité d'une légitimité européenne appelée à compléter les légitimités nationales. Et ceci m'amène à parler d'un combat que mène le Parlement pour la défense des droits de l'homme dans le monde. En condamnant sans relâche les violations des droits les plus élémentaires de la personne humaine dans de nombreux pays, notre Assemblée est devenue le porte-parole des Européens par lequel de nombreux pays dans le monde prennent conscience de la réalité communautaire et de l'attachement que les Européens portent à la sauvegarde des valeurs fondamentales sur lesquelles sont basées les sociétés démocratiques. Ce bilan largement positif de notre Assemblée veut-il dire que tout est parfait et que la communauté fonctionne à merveille? Certes non, et il nous faut aller de l'avant pour débloquer une situation qui, à maints égards, peut se révéler dangereuse. Je suis convaincue, pour ma part, que la communauté ne pourra progresser sur la voie de son union politique que si, parallèlement, elle progresse également vers son union économique. Ce serait en effet une illusion dangereuse de penser qu'il est possible de renforcer l'union politique en croyant qu'elle peut se substituer à une volonté défaillante pour régler les problèmes de la communauté économique. Toute construction européenne doit, par définition, et pour avoir des chances de succès, être une construction démocratique. L'intégration européenne, sans contrôle démocratique, conduirait en effet à la décadence progressive de la démocratie dans l'ensemble de l'ère européenne. Or, nous assistons dans le cadre de la communauté à un phénomène qui demande à être suivi de très près. Contrairement à ce que certains peuvent croire, l'intégration européenne ne se concrétise pas dans un simple transfert de compétences du plan national au plan européen. En réalité, lorsqu'une question, un problème sont traités au plan européen, c'est parce que sa dimension ne permet pas qu'elle soit examinée et résolue sur le plan national. Il est manifeste que, ne serait-ce que dans ces quelques secteurs de la vie communautaire, une règle élémentaire de la démocratie risque de ne pas être entièrement reconnue si le Parlement européen n'est pas appelé à exercer un pouvoir de contrôle et un pouvoir de délibération complet. Entre le Parlement européen et les parlements nationaux, il faut donc renforcer les liens et les contacts pour éviter tout affaiblissement de la démocratie, aussi bien sur le plan européen que sur le plan national. Certes, vous me permettrez de faire un rêve et de croire possible qu'un jour puisse se réaliser la prophétie de Saint-Simon, selon laquelle l'Europe aurait la meilleure organisation possible si toutes les nations qu'elle renferme reconnaissaient la suprématie d'un Parlement général placé au-dessus de tous les gouvernements nationaux et investi du pouvoir de juger leurs différends. Nous n'en sommes pas encore là. Et il nous faut donc renforcer cette coopération entre parlements nationaux et parlements européens, pour laquelle beaucoup reste encore à faire. Mesdames et messieurs, il y a 25 ans que furent signés à Rome les traités qui donnèrent naissance aux deux communautés économiques et atomiques européennes, qui, s'unissant à l'organisme déjà existant, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ont formé ce que nous appelons aujourd'hui couramment la Communauté économique européenne. De tels anniversaires conduisent tout naturellement à faire un bilan, un regard lucide, sans concession, mais sans bienveillance excessive, permet de constater que grâce à la communauté, l'Europe a connu depuis 25 ans une ère de paix et de prospérité comme jamais auparavant dans son histoire. Pas à pas, la communauté européenne a progressé. Les 6 États membres devenus 10 ont mis en place de nouvelles politiques communautaires. Un système monétaire a été également mis en place et on a développé une coopération politique qui sans doute n'autorise pas à parler de politique étrangère commune, mais au moins de politique étrangère concertée entre les 10 États membres. Enfin, le Parlement européen, élu au suffrage universel direct, donne à l'ensemble de ses actions communautaires la dimension démocratique qui lui faisait défaut jusqu'ici. Pourtant, nous devons constater en même temps que l'Europe vit un moment très difficile. Le drame de 10 millions de chômeurs, la récession économique et les menaces constantes contre la paix exigent des efforts communs et appellent à l'unité. Les Européens ne semblent pas se rendre suffisamment compte de l'importance que revêt la communauté dans leur existence individuelle et collective. Nous voyons se consolider certaines tendances dirigistes et nationalistes qui menacent la cohésion et l'édifice qui a été bâti. Dans le même temps, les tensions internationales, et notamment l'affrontement entre les deux superpuissances qui se manifestent en main point chaud de la planète, sous couvert de conflits plus ou moins sectoriels, menacent dangereusement la paix. Dans une telle conjoncture, notre cohésion et une ferme détermination à ne pas démissionner devant la montée de l'hégémonisme et le totalitarisme peuvent seules sauvegarder notre indépendance et notre sécurité. Les nations libres et toutes celles qui subissent des forces d'opposition qui les ont privées de leur liberté attendent de l'Europe qu'elle assume clairement ses responsabilités. Elle ne peut le faire que dans l'unité, que dans la démocratie. Mais nous devons nous rendre compte que le destin de l'Europe et l'avenir du monde libre sont entièrement entre nos mains, car l'histoire est écrite jour après jour et heure après heure par les actions des hommes.